Qu'est-ce que la vérité?
Numéro 4. Que votre cœur ne se trouble pas.
Au début de l'histoire du mouvement millerite, en 1798, la vision du fleuve Oulai dans le livre de Daniel fut décelée, produisant un accroissement de la connaissance qui mit à l'épreuve et manifesta deux classes d'adorateurs. La vision de l'Oulai représente le message intérieur destiné au peuple de Dieu, tel que le représentent les sept églises des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. À la fin de l'histoire prophétique commencée en 1798, lors du camp meeting d'Exeter du 12 au 17 août 1844, le message du cri de minuit fut décelé lorsque le lion de la tribu de Juda retira sa main d'une vérité cachée, ce qui produisit un accroissement de la connaissance qui mit à l'épreuve et manifesta deux classes d'adorateurs. En 1989, lorsque, comme décrit dans Daniel 11, verset 40, les pays représentant l'ancienne Union soviétique furent balayés par la papauté et les États-Unis, la vision du fleuve Hidgekel dans le livre de Daniel fut décelée, produisant un accroissement de la connaissance qui mit à l'épreuve et manifesta deux classes d'adorateurs. La vision du fleuve Hidgekel représente le message externe des ennemis du peuple de Dieu, tel qu'il est représenté par les sept sceaux dans le livre de l'Apocalypse. À la fin de l'histoire prophétique qui a commencé en 1989, à partir des deux dernières semaines de juillet 2023, le lion de la tribu de Juda commença le processus de déceler le message du cri de minuit en retirant sa main d'une vérité cachée, ce qui produit un accroissement de la connaissance qui met à l'épreuve et manifestera en fin de compte deux classes d'adorateurs au sein du peuple de Dieu. Dans le premier verset du chapitre 14 de Jean, le Christ encourage les disciples à ne pas laisser leur cœur se troubler.
Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean 14, 1er.
Quelques heures plus tard, le Christ fut arrêté et, peu après, il fut crucifié, enseveli et ressuscité. Après s'être monté vers le Père, il revint auprès de ses disciples.
Et comme il parlait ainsi, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Mais eux, terrifiés et épouvantés, croyaient voir un esprit. Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi des pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ?» Luc 24, 36-38.
La première déception dans une ligne de réforme survient lorsque le peuple de Dieu oublie une vérité précédemment révélée. Les disciples avaient oublié ce que Jésus leur avait dit moins d'une semaine avant que leur peur et leur déception ne se manifestent lors de la crise de la croix. Après la première déception vient un temps d'attente, qui, dans la parabole des 10 vierges, est représenté par l'absence de l'époux. Jésus avait dit directement aux disciples qu'il allait vers son Père, mais qu'il reviendrait. La connaissance préalable qu'il leur avait donnée n'a pas empêché les disciples d'être submergés par la crise. Dans le contexte de la parabole des 10 vierges, une crise est le moment où le caractère se manifeste, mais ne se manifeste jamais. Jésus avait choisi et ordonné les disciples, et il leur avait déclaré cette même vérité avant la crise.
« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et vous ai établi. » Afin que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15, 16.
Pourtant, même s'ils ont été choisis, cela ne les a pas empêchés d'être submergés par la crise.
Le caractère se révèle dans la crise. Lorsque, à minuit, la voix pressante proclama « Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre !» Les vierges endormies furent tirées de leur sommeil, et l'on vit qui s'était préparé à l'événement. Les deux groupes furent pris au dépourvu, mais l'un était prêt à faire face à l'urgence, tandis que l'autre se trouva sans préparation. Le caractère se révèle par les circonstances. Les situations d'urgence mettent en lumière la vraie trempe du caractère. Quelque calamité soudaine et imprévue, un deuil ou une crise, quelque maladie ou angoisse inattendue, quelque chose qui met l'âme face à face avec la mort, fera ressortir la réalité profonde du caractère. Il sera manifeste s'il y a une foi réelle dans les promesses de la parole de Dieu. Il sera manifeste si l'âme est soutenue par la grâce, s'il y a de l'huile dans le vase avec la lampe. Des temps d'épreuve surviennent pour tous. Comment nous comportons-nous lorsque Dieu nous éprouve et nous met à l'épreuve? Nos lampes s'éteignent-elles, ou bien les gardons-nous encore allumées? Sommes-nous prêts à toute éventualité, grâce à notre communion avec celui qui est plein de grâce et de vérité? Les 5 vierges sages ne pouvaient pas transmettre leur caractère aux 5 vierges folles. Le caractère doit être formé par nous, en tant qu'individus. Review and Herald, Somme d'octobre 1895.
La révélation de Jésus-Christ, qui est identifiée dans les premiers versets du livre de l'Apocalypse, est le message d'avertissement final à l'Église, puis au monde. cette révélation est décelée juste avant la fermeture du temps de probation par le lion de la tribu de Juda, qui a été identifié dans le chapitre 5 de l'Apocalypse comme le seul digne d'ouvrir le livre qui était scellé.
Et l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les sept sceaux. » Apocalypse 5, 5.
Le lion de la tribu de Juda est aussi la racine de David, et il est aussi le fils de David, et il est aussi le seigneur de David. Le lien représenté par le lion de la tribu de Juda indique que lorsque le lion de la tribu de Juda scelle ou décèle une vérité, il le fait en appliquant la règle de la première mention, qui identifie la fin d'une chose par son commencement, comme le représente Jésus en tant que racine de David. Lorsqu'une vérité est décelée à un moment de la fin, un processus de purification est initié, comme le représente Daniel 12.
C'était le lion de la tribu de Juda qui décela le livre et donna à Jean la révélation de ce qui devait arriver en ces derniers jours. Daniel se tint à sa place pour rendre son témoignage, lequel fut scellé jusqu'au temps de la fin, lorsque le message du premier ange devait être proclamé à notre monde. Ces choses sont d'une importance infinie en ces derniers jours, mais tandis que beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés, les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra. Manuscript Releases, volume 18, 14, 15.
L'œuvre de Jésus en tant que lion de la tribu de Juda est d'une importance infinie, mais aucun des méchants ne comprendra son œuvre, ni le message qui n'est plus scellé.
Est-il dit « Va, Daniel », car ses paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront méchamment. Et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Daniel 12, 9, 10.
Le processus d'épreuve est représenté par trois étapes, purifié, blanchi et éprouvé. Ces trois étapes représentent les trois étapes de l'Évangile éternel, qui, dans le message du premier ange, sont présentées comme « craignez Dieu, purifié, donnez-lui gloire, blanchi, car l'heure de son jugement est venue, éprouvé ». Ces trois étapes constituent la vérité, telle qu'elle est représentée par la première lettre. La 13e lettre est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, et lorsque ces lettres sont réunies dans cet ordre, le mot hébreu « vérité » est formé. Ces trois étapes sont la voix, car la voix de Dieu, selon Asaph dans le psaume 77-13, se trouve dans le sanctuaire où, dans le parvis, un pécheur est purifié par l'effusion du sang. Le sang est ensuite apporté dans le lieu saint, qui représente la sanctification, c'est-à-dire le processus d'être rendu blanc.
Et l'un des anciens prit la parole et me dit « Qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches et d'où viennent-ils ? » Et je lui dis « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Apocalypse 7, 13, 14.
Le pécheur justifié et sanctifié est alors préparé pour être jugé au jugement, représenté par le lieu très saint. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin est le début, la vérité est le milieu, et la vie est la fin. Si nous sommes purifiés par la première étape, nous sommes sur le chemin qui est la voie des justifiés.
Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Proverbe 4, 18.
La deuxième étape est la manifestation de la justice qui s'accomplit par sa vérité, car sa parole est la vérité.
Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17.
Les justifiés sont représentés par la première étape, les sanctifiés sont représentés par la deuxième. Les deux premières étapes préparent les justifiés et les sanctifiés à entrer en jugement et à recevoir la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
La justice intérieure se manifeste par la justice extérieure. Celui qui est juste au dedans n'est pas dur de cœur ni sans compassion. Mais, de jour en jour, il grandit à la ressemblance du Christ, allant de force en force. Celui que la vérité sanctifie sera maître de lui-même et marchera sur les traces du Christ jusqu'à ce que la grâce se perde dans la gloire. La justice par laquelle nous sommes justifiés est imputée. La justice par laquelle nous sommes sanctifiés est impartie. La première est notre titre pour le ciel, la seconde est notre préparation pour le ciel. Review and Herald, Phare juin 1895.
Les chapitres 14 à 17 de Jean abordent à plusieurs reprises la question de la réaction des disciples lorsque le Christ les quitte pour aller vers son Père. Il promet de revenir, et ils comprenaient, bien que les disciples ne le comprenaient pas, que la crise imminente produirait une profonde déception. Au fil de ces quatre chapitres, le Saint-Esprit est identifié et défini comme le Consolateur. Le Saint-Esprit est désigné quatre fois comme le Consolateur dans l'Évangile selon Jean et une fois dans la première épître de Jean, mais là, le mot est traduit par « avocat ». On ne le trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament emploie un mot hébreu qui a été traduit par « consolateur » dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 1, et dans Lamentations, chapitre 1, versets 9 et 16. Ces trois références indiquent que des oppresseurs ont opprimé le peuple de Dieu et qu'ils n'ont pas de consolateur pour les soutenir dans la détresse et la déception où ils se trouvent. L'identification du Saint-Esprit comme le « consolateur » se situe dans le passage où Jésus cherche à préparer les disciples à la grande déception qui les attend dans quelques heures. Dans ce contexte, il souligne que, même en son absence, le Saint-Esprit sera présent pour leur apporter du réconfort. En identifiant le Saint-Esprit comme le Consolateur, Jésus précise les caractéristiques de l'œuvre que le Consolateur accomplira. Les références répétées de Jésus à son départ et à son retour placent ce sujet même au premier plan, en tant que thème principal du passage. Jean 14, 2-4, 18, 19, 28, 16, 5-7, 10, 28, 17, 11-13 sont des versets qui traitent directement de temps d'attente dans la parabole des 10 vierges. Au verset précédent, s'ajuste le passage suivant, qui, par la répétition, met l'accent sur le temps d'attente, car le Seigneur ne répète pas des choses de peu d'importance.
Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez, et... parce que je vais au Père ?» Ils dirent donc, « Que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps ?» Nous ne savons ce qu'il veut dire. Jésus savait qu'il voulait l'interroger, et il leur dit, « Vous vous questionnez entre vous sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez ?» en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle est en travail, est dans la tristesse parce que son heure est venue. Mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de l'angoisse, à cause de la joie qu'un homme est venu au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Jean 16, 16-22.
Au moins 21 versets, du chapitre 14 au chapitre 17, identifient la période pendant laquelle les disciples devraient attendre le retour du Christ. Cette période commencerait à la mort du Christ et se poursuivrait jusqu'à son retour d'auprès de son Père. Le temps pendant lequel ils devaient attendre son retour symbolise le temps d'attente dans la parabole des 10 vierges. Comme dans le récit de Luc concernant les disciples d'Emmaüs, la déception liée à la deux croix typifie prophétiquement le début du temps d'attente qui suit la première déception. Dans le premier passage du premier livre de la Bible, nous trouvons le récit de la création. Et nous reconnaissons les trois personnes du trio céleste. Dans le premier passage du dernier livre de la Bible, nous trouvons les trois personnes du trio céleste. Dans les quatre chapitres que nous considérons, nous trouvons les trois personnes du trio céleste. Reconnaître ce fait nous permet de superposer les quatre chapitres de Jean à la ligne prophétique de la Genèse chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 3, et à l'Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 11. Dans le passage, Jésus dit à Thomas que si quelqu'un a vu Jésus, il a vu le Père. Le passage précise également que le Christ est celui qui a réconforté les disciples par sa présence, mais que, lorsqu'il partirait, il enverrait un autre consolateur. L'Esprit Saint est le Consolateur, mais le Christ était aussi le Consolateur.
Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu donc, « Montre-nous le Père ?» Jean 14, 7-9.
Thomas represents soul sign de l'adventisme, qui refuse de voir le tenalos de la relation du trio céleste, bien qu'ils aient probably lu ad moth reprise les tenalos qui soutiennent cette vérité.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis, vous vivrez aussi. Jean 14, 16, 19.
Si nous avons vu Jésus, nous avons vu le Père. Jésus est le Consolateur et le Saint-Esprit est un autre Consolateur. Si nous avons vu Jésus, nous avons vu le Père et nous avons vu le Consolateur. Des cinq fois où le mot « Consolateur » est employé dans la Bible, toutes se trouvent chez l'apôtre Jean. Dans la cinquième occurrence, le mot est traduit par « avocat ».
Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. 1 Jean 2, 1.
Si quelqu'un pêche, nous avons un consolateur, Jésus-Christ le Juste. Un avocat est quelqu'un qui intercède en faveur du pécheur. Paul présente l'œuvre de Jésus comme celle de notre avocat.
Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite même de Dieu. Et il intercède aussi pour nous. Romains 8, 34.
Jésus est l'avocat du pécheur, ce qui signifie qu'il est le consolateur. Dans le même chapitre, Paul avait déjà indiqué que le Saint-Esprit intercède aussi pour nous.
De même, l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Romains 8, 26, 27.
Jésus et le Saint-Esprit sont tous deux identifiés comme le Consolateur et par conséquent, ils sont tous deux des défenseurs qui intercèdent pour nous. Les trois personnes du trio céleste sont toutes les trois représentées dans le passage de Jean que nous considérons et lorsqu'on le rapproche du premier témoignage du premier livre de la Bible et du premier témoignage du dernier livre de la Bible, la lumière sur la relation et l'œuvre des trois personnes de la divinité s'en trouve magnifiée.
Le Père ne peut être décrit par les choses de la terre. Le Père est toute la plénitude de la divinité corporellement, et il est invisible au regard des mortels. Le Fils est toute la plénitude de la divinité manifestée. La parole de Dieu déclare qu'il est l'image exacte de sa personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici est montrée la personnalité du Père. Le Consolateur que le Christ a promis d'envoyer après être monté au ciel est l'Esprit dans toute la plénitude de la divinité, manifestant la puissance de la grâce divine à tous ceux qui reçoivent et croient en Christ comme sauveur personnel. Il y a trois personnes vivantes du trio céleste. Au nom de ces trois puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui reçoivent le Christ par une foi vivante sont baptisés et ces puissances coopéreront avec les sujets obéissants du ciel dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en Christ. Que doit faire le pécheur ? Croire au Christ. Il appartient au Christ, acheté par le sang du Fils de Dieu. Par l'épreuve et la tentation, le Sauveur a racheté les êtres humains de l'esclavage du péché. Que devons-nous donc faire pour être sauvés du péché ? Croire au Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur qui pardonne les péchés. Celui qui confesse son péché et humilie son cœur recevra le pardon. Jésus est le Sauveur qui pardonne les péchés, ainsi que le Fils unique engendré du Dieu infini. Le pécheur pardonné est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, notre libérateur du péché. En demeurant sur le chemin de la sainteté, il relève de la grâce de Dieu. Lui sont accordés le salut plein et entier, la joie et la paix, et la vraie sagesse qui vient de Dieu. La foi dans le sang expiatoire de Jésus-Christ est l'assurance du pardon. Le Christ peut purifier de tout péché. Une simple confiance, jour après jour, en cette puissance, donnera à l'être humain un discernement aigu pour reconnaître ce qui préservera l'âme en ces derniers jours de l'esclavage du péché. Par la foi et la prière, par la connaissance du Christ, il doit travailler à son propre salut. Le Saint-Esprit discerne et nous guide dans toute la vérité. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est le sauveur du pécheur. La mort du Christ a racheté le pécheur. C'est notre seule espérance. Si nous nous abandonnons entièrement et pratiquons les vertus du Christ, nous remporterons le prix de la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a aussi le Père. Celui qui a une foi constante dans le Père et le Fils a aussi l'Esprit. Le Saint-Esprit est son consolateur et il ne s'écarte jamais de la vérité. Bible Training School, 1er mars 1906.
Outre la lumière supplémentaire que procure l'œuvre et la relation du trio céleste, identification du trio céleste dans le passage constitue un témoignage du fait que ces quatre chapitres doivent être alignés sur le message que le lion de la tribu de Juda est maintenant en train de déceler. Le témoignage contenu dans le récit des disciples d'Emmaüs présente trois témoignages qui établissent que la déception et le temps d'attente qui ont suivi la croix correspondent à la déception et au temps d'attente qui suivent la première déception. Il existe un autre témoignage qui soutient que l'histoire représentée dans les quatre chapitres de Jean représentait les circonstances de la première déception. Le dernier verset du récit de la création, qui est la première vérité mentionnée dans la parole de Dieu, se termine par trois mots. Et chacun de ces trois mères commence par l'une des trois lettres qui composent le mot « vérité », et cela dans le bon ordre. Le récit de la création dans la Genèse commence par les mots « au commencement » et se termine par les trois mots « Dieu créa et fit ». Les premières lettres de ces trois mots, combinées, forment le mot « vérité ». Le récit de la création commence par le « commencement » et se termine par le mot symboliquement représenté par les lettres qui représentent l'alpha et l'oméga. De même, dans le passage d'ouverture du dernier livre de la Bible, Jésus est identifié deux fois comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Ces trois lettres, qui représentent l'alpha et l'oméga, fournissent un témoignage supplémentaire selon lequel le passage de Jean doit être mis en relation avec la ligne prophétique du début de la Genèse et la ligne prophétique du début de l'Apocalypse. Ce témoignage est reconnu dans la description de l'œuvre du Consolateur. L'œuvre du Consolateur est l'œuvre en trois étapes représentée par ces mêmes trois lettres hébraïques. La signature de l'alpha et de l'oméga nous permet de placer ces quatre chapitres dans le contexte du message de l'Apocalypse de Jésus-Christ, qui est décelé juste avant que la probation ne se termine. Les sept tonnerres représentent quatre jalons spécifiques, des moments précis, et trois périodes de temps spécifiques, lesquelles commencent avec le jalon de la descente d'un ange qui doit illuminer la terre de sa gloire. Ce jalon était un moment précis. Le deuxième jalon, moment précis, est la première déception, qui inaugure le temps d'attente. Le temps d'attente conduit au troisième jalon, moment précis, où une vérité est décelée, ce qui produit un mouvement. Le mouvement s'achève au quatrième jalon, moment précis, représenté comme un jugement. Ces quatre jalons et ces trois périodes de temps représentent chacun un tonnerre, pour un total de sept tonnerres. Ils représentent également une combinaison 4-4-3. Dans les articles précédents, nous avons montré que la compréhension des pionniers concernant les sept églises, les sept sceaux et les sept trompettes reconnaît une combinaison 4-3. Les quatre premières églises, sceaux et trompettes, se distinguent des trois dernières églises, sceaux et trompettes. Les sept tonnerres représentent quatre jalons, mais au sein de ces quatre jalons se trouvent trois périodes de temps. Dans l'Apocalypse, la combinaison divine 4 et 3 est fondée sur trois témoins, les églises, les sceaux et les trompettes. Et ces témoins attestent de la validité de la combinaison 4-3 des sept tonnerres de l'Apocalypse. Pourtant, au sein de la ligne d'histoire représentée par les sept tonnerres se trouve une autre ligne de prophétie, cachée et distincte, qui comporte trois jalons distincts du symbole représenté par les sept tonnerres. Par conséquent, lorsque nous considérons la relation prophétique des sept tonnerres avec l'histoire cachée qui est maintenant dévoilée, nous constatons que les sept tonnerres présentent quatre jalons, point dans le temps, et que l'histoire cachée présente trois jalons, point dans le temps. À la star des églises, des sceaux, des trompettes et des tonnerres, l'histoire cachée représente trois jalons qui sont liés aux quatre jalons des sept tonnerres. L'histoire cachée possède également une combinaison 3-4. Dans l'histoire cachée qui est intégrée dans les sept tonnerres, il y a trois jalons distincts qui sont chacun un point dans le temps. Et, parmi ces trois jalons, le premier et le dernier représentent une déception. Il existe une période de temps distincte entre le premier et le deuxième jalon et une période de temps distincte entre le deuxième et le troisième point dans le temps. Le mot « disappointment » a évolué à partir du concept d'un rendez-vous manqué et, dans sa définition, met l'accent sur un point dans le temps. Minuit est aussi une heure précise. L'histoire cachée est représentée par trois points dans le temps séparés par deux périodes de temps, le temps d'attente et le mouvement du septième mois. Le premier jalon de l'histoire cachée marque une déception, et le dernier jalon marque lui aussi une déception. Ainsi, de la première déception jusqu'à la dernière s'étend une ligne cachée de prophétie qui comprend les mêmes trois étapes que toutes les lignes de réforme. Elle porte aussi la signature de l'alpha et de l'oméga, car les trois lettres qui forment vérité correspondent aux trois jalons dont le premier et le dernier marquent une déception. Cette histoire cachée au sein des sept tonnerres est la vérité que le lion de la tribu de Juda est en train de déceler. Le passage de Jean que nous examinons est introduit dans le chapitre précédent par la scène, soulignant que le message de ces quatre chapitres doit être mangé. Ces quatre chapitres se terminent par la marche vers Gethsémani. Le récit se déroule dans le mouvement allant du repas jusqu'au début de la crise de la croix. Prophétiquement, le cadre de ces quatre chapitres définit le dernier message qui doit être mangé avant le jugement. Le message qui conduit à la clôture du jugement est le message dont les sceaux sont brisés dans le livre de l'Apocalypse, juste avant que le jugement ne se clôture. Les disciples et Jésus se trouvent au point de l'histoire prophétique où ils sont informés du temps d'attente. Dans l'histoire millérite, le Seigneur retira sa main afin de susciter la compréhension du message du cri de minuit. Mais la compréhension qui produisit le message de Samuel Snow informa également les millérites qu'ils se trouvaient dans le temps d'attente des dix vierges. Les disciples venaient de prendre la scène et tandis qu'ils assimilaient le message, le Christ expliqua le temps d'attente dans les quatre chapitres de Jean. La compréhension de Samuel Snow peut être consignée sous la forme d'une série d'articles qui ont développé la compréhension finale représentée par le message du cri de minuit. À mesure que son message se développait, il l'a également présenté lors d'une série de réunions de camp. La série d'articles menant aux réunions de camp l'a finalement conduit à la réunion de camp d'Exeter, qui a duré 6 jours. Prophétiquement, le message du cri de minuit se développe progressivement sur une période de temps. Les quatre chapitres de Jean se situent dans l'histoire prophétique où le message est en cours d'élaboration. Dans les quatre chapitres de Jean, l'œuvre du Saint-Esprit est définie en 3 étapes, la conviction de péché, de justice et de jugement. Ces 3 étapes sont aussi les 3 jalons de l'histoire cachée intégrée dans les 7 tonnerres.
Néanmoins, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers mon Père et vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16:7-14.
Dans l'histoire millérite, Jésus n'est pas revenu pour mettre fin au temps d'attente au cri de minuit. Il a retiré sa main et a répondu ou envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, représenté comme le Consolateur, est venu dissiper la déception. Il est venu apporter du réconfort à ceux qui ont été choisis, mais qui étaient perplexes devant la déception provoquée par l'échec d'une prédiction. Nous avons déjà souligné que l'apôtre Jean, Ézéchiel et Jérémie sont tous représentés en train de manger le petit livre qui est doux comme du miel dans la bouche. Il existe une distinction intentionnelle entre ces 3 prophètes, souvent passés inaperçus. Ézéchiel est utilisé pour illustrer ceux qui ont mangé le petit livret à qui l'on confie un message apporté à l'Église apostate de Dieu. Ézéchiel montre que le livre mangé identifie l'œuvre qui doit ensuite être accomplie. Il représente le message donné à l'ancien peuple élu de Dieu. Son message est ce qui lie l'ancien peuple élu en fagots destinés au feu. Dans les 4 chapitres de Jean, Jésus identifie le but de l'œuvre d'Ézéchiel.
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre homme n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela arrive afin que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Mais lorsque viendra le Consolateur, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, travers 126.
L'œuvre d'Ézéchiel, qui a commencé lorsqu'il a mangé le livre, représente la présentation d'un message qui sera rejeté. Mais ce rejet est la preuve qu'ils haïssent Dieu et qu'ils ont entièrement rempli leur coupe du temps de probation.
Et il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est rebellée contre moi. Eux
et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour même, car ce sont des enfants impudents et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, et eux, qu'ils écoutent ou qu'ils refusent d'écouter, car ils sont une maison rebelle, ils sauront néanmoins qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. » Ézéchiel 2, 3 Fagra.
L'œuvre d'Ézéchiel fut un témoignage contre le peuple de l'Ancienne Alliance, comme le fut le Christ envers les Juifs ergoteurs, et ainsi le message d'Ézéchiel est l'ultime message d'avertissement qui lie le peuple de l'Ancienne Alliance comme l'ivraie liée en gerbe, vouée au feu de la destruction.
Je vis alors le troisième ange. Mon ange qui m'accompagnait dit « Redoutable n'a terrible sa œuvre, terrible est sa mission. Il est l'ange qui doit séparer le blé de l'ivraie et sceller, ou lier, le blé pour le grenier céleste. Ces choses devraient absorber tout l'esprit, toute l'attention. » Early Writings 1118.
L'œuvre représentée par le fait de manger le petit livre commence lorsque l'ange puissant descend avec un petit livre à la main. Dans l'histoire du premier ange, cela eut lieu le 11 août 1840, et dans l'histoire du troisième ange, cela eut lieu le 11 septembre 2001. Ces deux dates représentent l'accomplissement de prophéties associées, respectivement, à l'islam du deuxième malheur et à l'islam du troisième malheur. C'est pourquoi Ésaïe, au chapitre 3:22, lorsqu'il décrit la crise dans la vallée de la vision, pour les Philadelphiens et les Laducéens, indique que les Laducéens, qui étaient le peuple choisi du protestantisme en 1840, et l'Adventisme, qui était le peuple choisi en 2001, étaient liés par les archers. Les archers de la prophétie biblique sont l'islam, et lorsque la vision de l'islam s'est accomplie en 1840 et en 2001, les anciens peuples choisis ont rejeté la prophétie concernant l'islam telle que présentée par ceux que représente Ézéchiel. Ils furent alors liés comme de l'ivraie. L'œuvre d'Ézéchiel consistait à enlever le manteau couvrant leurs péchés, que Jésus présente comme de la haine envers Dieu.
Oracle sur la vallée de la vision. Qu'as-tu donc maintenant que tu es monté tout entière sur les toits? Toi, pleine d'agitation, ville tumultueuse, ville joyeuse, tes morts n'ont pas été tués par l'épée, ni morts au combat. Tous tes chefs ont fui ensemble, ils ont été liés par les archers. Tous ceux qu'on a trouvés en toi ont été liés ensemble, eux qui avaient fui au loin. Ésaïe 22, 1-3. Et Dieu fut avec l'enfant, Ismaël, il grandit, habita dans le désert et devint archer. Genèse 21-20.
Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi est heureux.
Proverbe 29-18.
Jérémie représente ceux qui ont mangé le livre lorsque l'ange puissant, qui devait éclairer la terre de sa gloire, est descendu, mais qui ont connu la déception causée par l'échec de la prédiction de 1843. Jérémie se demande prophétiquement si Dieu avait menti. Cette référence relie Jérémie à Habacuc 2.
« Je me tiendrai à mon poste de garde, je me posterai sur la tour. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai quand il me reprendra. Et le Seigneur me répondit et dit, « Écris la vision, rends-la claire sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps fixé, à la fin elle s'accomplira et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Voyez, celui dont l'âme s'exalte n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Habacuc 2, 1-4.
John a été utilisé pour symboliser ceux qui ont connu la douceur et l'amère déception, représentant toute l'histoire du 11 août 1840 au 22 octobre 1844.
Et j'allai vers l'ange et je lui dis, « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et mange-le tout entier. Il rendra amer ton ventre, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai tout entier. Il était dans ma bouche doux comme le miel. Et dès que je l'eus mangé, mon ventre devint amer. Apocalypse 19, 10.
Ézéchiel représente l'œuvre consistant à présenter le message prophétique qui scelle l'ancien peuple élu. Œuvre qui a été initiée lorsque l'ange est descendu le 11 août 1840 et le 11 septembre 2001.
Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Et lorsque je regardais, voici, une main fut envoyée vers moi. Et, voici, il y avait en elle un rouleau de livres. Et elle le déroula devant moi. Il était écrit au-dedans et au-dehors. Et il y était écrit, lamentation, deuil et malheur. Il me dit encore, fils de l'homme, mange ce que tu trouveras. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris donc la bouche
et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, « Fils de l'homme, rassasie ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Alors je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ézéchiel 2:8-3:3.
Jérémie représente l'histoire du 11 août 1840 jusqu'à juste avant le cri de minuit.
« J'ai trouvé tes paroles, et je les ai dévorées. Et ta parole a été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé par ton nom, ô Éternel, Dieu des armées.
Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, ni ne me suis réjoui. Je me suis assis seul à cause de ta main, car tu m'as rempli d'indignation. Pourquoi ma douleur est-elle perpétuelle et ma blessure incurable, qui refuse d'être guérie? Seras-tu pour moi tout à fait comme un menteur, comme des eaux qui tarissent? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens, je te ramènerai, et tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares le précieux du vil, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent à toi, mais toi ne reviens pas vers eux. Et je ferai de toi pour ce peuple une muraille d'airain fortifiée. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas contre toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Et je te délivrerai de la main des méchants, et je te rachèterai de la main du terrible. Jérémie 15:16-21.
Jérémie représente notre histoire et notre message actuel. Le message actuel est celui du cri de minuit, qui se développe progressivement au moment où le peuple de Dieu, représenté par Jérémie, a été rempli d'indignation, pensant que sa douleur devait être perpétuelle et sa blessure incurable, une blessure qui ne devait jamais être guérie. Ils se sont séparés de l'assemblée des moqueurs. Ils ne se réjouissent plus comme ils l'avaient fait lorsqu'ils avaient pour la première fois mangé le livre et que cela avait été la joie de leur cœur.
Mais il y a un conseil pour ceux qui sont dans cet état. Si tu reviens, et aussi si tu retires le précieux du vil, alors Dieu reviendra vers eux. En hébreu, « je te ramènerai encore » dans le passage signifie que Dieu reviendra vers eux s'ils reviennent vers lui.
Soumettez-vous donc à Dieu.
Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Affligez-vous, portez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4:7-10.
S'ils s'approchent de Dieu, il s'approchera d'eux. S'ils font ces choses, alors ils se tiendront devant le Seigneur et ils seront la bouche de Dieu. En outre, il instruit Jérémie, nous, qu'il fera de son peuple un mur d'airain fortifié pour les méchants, et par la suite les terribles vont mener une guerre contre ceux que Jérémie représente. Les méchants sont chez Daniel la représentation des vierges folles de Matthieu. Le terrible représente la tripe union de Babylone moderne pendant la crise de la loi du dimanche. Les témoignages des trois prophètes portent tous sur la même histoire, mais ils en abordent trois aspects différents. Jérémie représente ceux qui viennent de connaître la première déception, mais n'ont pas encore atteint le jalon du cri de minuit. C'est là que nous nous trouvons depuis le 18 juillet 2020. La question est de savoir si nous reviendrons. Si nous le faisons, nous parlerons pour le Seigneur au moment même où les États-Unis parlent, comme un dragon. L'histoire que Jérémie illustre est notre histoire actuelle. Et c'est l'histoire représentée par les trois repères cachés au sein des sept tonnerres. C'est aussi l'histoire dans laquelle le passage de Jean est placé prophétiquement, car l'accent des quatre chapitres de Jean porte sur l'œuvre du Saint-Esprit qui console Jérémie, lequel se demande s'il a cru un mensonge et si le message qui avait un goût si doux n'était en réalité que des eaux trompeuses. Jérémie représente donc l'histoire depuis le 11 septembre 2001 jusqu'au 18 juillet 2020, lorsque le temps d'attente a commencé, tel que représenté par 3 jours et demi symboliques après. Quand je dis symbolique, je ne fais pas référence à une prédiction temporelle. Je dis que le 18 juillet 2020 est le moment où les deux témoins, la Bible et l'esprit de prophétie, ont été mis à mort et que leurs cadavres ont été laissés dans la rue pendant 3 jours et demi dans l'Apocalypse 11.
Et je donnerai à mes deux témoins le pouvoir et ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage,
la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où notre Seigneur a aussi été crucifié. Des peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, feront la fête et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Apocalypse 11, 3, 10.
Le témoignage présenté par l'état de Jérémie se situe après la déception, mais avant le cri de minuit. Jérémie devait revenir avant de pouvoir être la voix du message du cri de minuit. Telle est notre condition aujourd'hui. C'est aussi le cadre historique des 4 chapitres de Jean que nous considérons, et c'est aussi l'histoire représentée par l'histoire cachée au sein des 7 tonnerres. Si nous considérons la lumière liée au Consolateur dans le témoignage en 4 chapitres de Jean, nous trouvons des preuves abondantes permettant de reconnaître que le récit porte sur le 18 juillet 2020, la déception et le temps d'attente, le message du cri de minuit qui est dévoilé, et le jugement à venir de la loi du dimanche. Ces chapitres s'appuient sur la structure prophétique de l'histoire cachée. Si nous devons être comme la bouche de Dieu dans la crise imminente, notre tâche maintenant est de retirer le précieux du vil. Ou comme Jacques désigne cette même œuvre, nous devons purifier nos mains, pécheurs, et purifier vos cœurs, vous qui avez l'esprit partagé. Affligez-vous, menez deuil, et pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en abattement. Humiliez-vous aux yeux du Seigneur, et il vous élèvera, comme un étendard dans un avenir tout proche.
Il dressera un étendard pour les nations, rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Ésaïe 11, 12.
Nous conclurons notre examen de ces 4 chapitres dans le prochain article.